Voici ce qui s'était passé. Mon attention s'éveilla de nouveau. Il faut vous dire que Kazbich crut qu'Azamat avait volé son cheval avec le consentement de son père. Au moins, je le suppose. Et un jour où le vieillard revenait des recherches qu'il faisait vainement pour retrouver sa fille, Kazbich l'attendit sur le chemin, à 3 verstes du village. Le vieillard allait au pas, tout soucieux, lorsque soudain, agile comme un chat, Kazbich s'élança d'un buisson, sauta sur la croupe du cheval, jeta le vieillard à terre d'un coup de poignard et s'empara des rênes. Voilà ce qui se passa. Quelques personnes virent cela du haut d'une colline et s'élancèrent pour le rattraper, mais elles n'y parvinrent pas. Il s'était ainsi indemnisé de la perte de son cheval et vengé tout à la fois, m'écriai-je afin de savoir l'opinion de mon interlocuteur sur tout cela. Le capitaine me répondit après un instant de réflexion. Selon leurs mœurs, il était dans son droit. Je fus frappé de la facilité avec laquelle cet homme russe s'était accoutumé aux mœurs sauvages de ces peuples au milieu desquels je venais vivre. Je ne sais si cette souplesse de caractère est digne de blâme ou d'éloge, mais dans tous les cas, elle prouvait chez lui une finesse qui ne paraissait pas, et la présence de cet esprit éclairé et saint qui pardonne le mal partout où il le voit absolument nécessaire et impossible à détruire. Cependant, le thé était bu et nos attelages grelottaient de froid depuis longtemps sous la neige. La lune pâlissait au couchant et semblait près de se replonger au milieu des nuages noirs, suspendus sur les sommets éloignés, comme des pans de rideaux déchirés. Nous sortîmes de la cabane. En dépit de la prédiction de mon compagnon de voyage, le temps s'éclaircit et nous eûmes une matinée tranquille. Des groupes d'étoiles admirables à voir s'entrelaçaient à l'horizon. Elles s'éteignirent l'une après l'autre, à mesure qu'une lueur qui commençait à poindre au milieu de la voûte céleste teinte de pourpre illumina peu à peu les fentes abruptes des montagnes couvertes de neige virginale. À droite et à gauche, on voyait les précipices se cacher et devenir plus sombres. Les brouillards tourbillonnaient, se tordaient comme des serpents, puis rampaient entre les anfractuosités des roches voisines comme s'ils eussent compris et senti la venue du jour. Tout était calme aux cieux et sur la terre, comme dans le cœur de l'homme au moment de la prière du matin. Seulement, de temps à autre, une brise froide venant de l'Orient soulevait la crinière de nos chevaux couverte de givre. Nous nous mîmes en route. 5 mauvaises haridelles traînaient avec difficulté nos voitures dans les chemins difficiles du mont Gut. Nous allions à pied derrière elles et placions des pierres sous les roues lorsque les forces des chevaux étaient épuisées. On aurait dit que ce chemin allait aux cieux, car quelques yeux que l'on put employer à le regarder, il montait toujours et disparaissait dans le nuage qui, le soir encore, couvrait le sommet du mont Gut, comme un vautour guettant sa proie. La neige craquait sous nos pieds. L'air se condensait au point que notre respiration devenait difficile. Le sang nous montait à la tête de temps en temps, et une certaine sensation fort agréable se répandait dans mes veines, et je me trouvais satisfait de me voir sur un des points les plus élevés du globe. Sentiment puéril, s'écartant des choses admises, mais conforme à la nature. Malgré nous, nous étions redevenus des enfants. Dans ce moment, tout ce qui est acquis se détache de l'âme, et celle-ci devient ce qu'elle ne fut jamais et sera certainement de nouveau lorsque la mort viendra. Voilà ce qui arrive à ceux qui, comme moi, errent longtemps au milieu des montagnes désertes, observent leurs bizarres images et respirent avidement l'air vivace qui remplit leur défilé. Et si j'ai un désir, c'est de vous les faire connaître, de vous les décrire et de vous peindre ces gigantesques tableaux. Nous atteignîmes enfin le sommet du mont Gut, et instinctivement nous nous arrêtâmes pour regarder derrière nous. Sur la pente s'étendait un nuage gris dont le souffle glacé nous menaçait d'un orage voisin. Mais à l'Orient, tout était si clair et si doré que le capitaine et moi l'oubliâmes complètement, et surtout le capitaine. Dans les cœurs primitifs, le sentiment de la beauté et de la grandeur d'une nature vigoureuse est 100 fois plus vivace qu'en nous, qui ne sommes enthousiastes que des conteurs en paroles et sur papier. Vous êtes accoutumé, je pense, à ces splendides tableaux.
Comme on peut s'habituer au sifflement des balles, c'est-à-dire à cacher les palpitations involontaires du cœur.
J'avais entendu dire, au contraire, que pour de vieux soldats, cette musique était fort agréable.
Cela s'entend. Elle est agréable, si vous voulez, mais seulement parce que le cœur se fait plus fort. Regardez,
ajouta-t-il en me montrant l'Orient.
Quel pays !
Effectivement, il me semble qu'on trouverait difficilement un pareil panorama. Sous nous s'étendait la vallée de Koïchaoursk, sillonnée par la Rajva et par une autre rivière, comme par un double fil argenté. Une vapeur bleuâtre glissait sur elle et courait vers les gorges voisines, chassée par les rayons ardents du jour naissant. À droite et à gauche, les crêtes des montagnes, d'inégale hauteur, ou bien coupées en deux, s'étendaient sous un manteau de neige et un rideau d'arbres. De loin, ces mêmes montagnes paraissaient être deux rochers parfaitement ressemblant l'un à l'autre, et tous deux, éclairés par les reflets brillants de la neige, si gaiement et si chaudement, qu'il semblait qu'on aurait pu s'arrêter là et y vivre toujours. Le soleil se montrait à peine au-dessus d'une montagne bleu sombre, que seul un œil exercé aurait pu ne pas prendre pour un nuage orageux. Sur le soleil s'étendait une raie sanglante que mon compagnon de voyage observa tout particulièrement.
« Je vous ai dit, s'écria-t-il, quel temps nous aurions aujourd'hui. Il faut nous hâter. Mais nous serons arrêtés, croyez-le, sur le mont Saint-Christophe. En route !
Cria-t-il au conducteur.
On plaça des chaînes aux roues au lieu de patins, afin qu'elles ne pussent rouler. On prit les chevaux par le mors et l'on se mit à descendre. À droite était le rocher, à gauche un précipice tel que tout un village tartare placé au fond paraissait gros comme un nid d'hirondelle. Je frissonnais en songeant qu'en ce lieu où deux voitures ne peuvent se croiser, un courrier quelconque, 10 fois par an, passe par une nuit sombre sans même descendre de son équipage cahotant. Un de nos conducteurs était un paysan russe de Yaroslav, et l'autre un circassien. Ce dernier tenait les rênes du limonier avec toutes les précautions possibles, prêt à dételer plutôt que de se laisser emporter. Mais notre Russe, insouciant, n'était pas même descendu de son siège. Et lorsque je lui fis observer qu'il pourrait bien s'occuper avec plus de soin de ma valise que je ne tenais pas du tout à laisser dans ce gouffre, il me répondit
« C'est vrai, votre seigneurie a raison, mais Dieu veuille que nous n'arrivions pas en plus piteux état que votre valise. Ce n'est pas du reste la première fois que nous passons ici. »
Il disait la vérité. Nous aurions pu effectivement ne pas arriver, et nous arrivâmes cependant tel qu'au départ. Et si tous les hommes raisonnaient davantage, ils seraient convaincus que la vie ne vaut pas la peine qu'on s'occupe d'elle autant qu'on le fait. Mais peut-être désirez-vous connaître la fin de l'histoire de Bella. D'abord, je n'écris pas un conte, mais des impressions de voyage, et par conséquent, je ne puis obliger le capitaine à raconter avant qu'il ne le veuille. Ainsi donc, prenez un peu patience, ou sinon, tourner quelques pages. Mais je ne vous le conseille pas, parce que le récit de notre passage sur le Christovoy, ou Mont-Saint-Christophe, comme l'appelle le savant Gamba, est digne de votre curiosité. Ainsi donc, nous descendîmes du mont Gut dans la vallée de Tchertov. En voilà un nom romanesque. Vous voyez déjà l'antre de l'esprit diabolique au milieu des rochers inaccessibles. Eh bien, il n'en est rien. Le mot « vallée de Tchertov » vient du mot « tcherta », ligne, et non de « tchort », diable. On la nomme ainsi parce qu'elle sert de frontière à la Géorgie. Cette vallée, qui rappelle assez exactement Saratov, Tambov et autres lieux bien aimés de notre patrie, était encombrée par les neiges.
« Voilà le Christovoy !»
me dit le capitaine, lorsque nous arrivâmes dans la vallée de Tchertov, en me montrant la colline couverte d'un manteau blanc. À son sommet, on apercevait une arête rocheuse et, tout près, un sentier à peine visible sur lequel on passe lorsque la neige a couvert les alentours. Nos conducteurs déclarèrent qu'il n'y avait pas encore eu d'avalanche et, s'efforçant de maintenir les chevaux, suivaient les replis du sentier. À un détour, nous rencontrâmes 5 circassiens. Ils nous offrirent leur service, s'attachèrent aux roues et, en criant, se mirent à pousser et à soutenir nos voitures. Réellement, le chemin était dangereux. À droite se dressaient sur nos têtes des monceaux de neige prêts à fondre dans les défilés au premier coup de vent. Les 3 sentiers étaient par bonheur couverts de neige. Dans certains endroits, elle s'écroulait sous nos pieds. Dans d'autres, elle s'était congelée sous l'influence des rayons du soleil et de la fraîcheur des nuits, si bien que nous-mêmes avions beaucoup de peine à marcher. Les chevaux tombaient à chaque instant. À gauche, bâillait une crevasse énorme au fond de laquelle coulait un ruisseau, tantôt caché sous une croûte de glace, tantôt bondissant et écumant sur les rochers sombres. À peine si nous pûmes en 2 heures tourner le Christovoy. 2 verstes en 2 heures. De plus, les nuages s'abaissèrent. Nous eûmes de la grêle et de la neige. Le vent s'enfonçait dans les défilés, hurlait et sifflait comme un oiseau de proie. Et bientôt la crête rocheuse se cacha au milieu des vapeurs dont les ondes, devenant sans cesse plus épaisses et plus obscures, s'amoncelaient vers l'Orient. Il existe une étrange et vieille tradition sur cette cime. On rapporte que l'empereur Pierre Ier, voyageant à travers le Caucase, s'y arrêta. Mais, premièrement, Pierre n'alla qu'à Daghestania. Secondement, sur la croix, une inscription en grosses lettres atteste qu'elle a été érigée par ordre de Ermolov en 1824. Et cependant, malgré l'inscription, la tradition est tellement enracinée que, vraiment, on ne sait qui croire, d'autant plus que nous ne sommes pas habitués à croire aux inscriptions. Il nous fallait descendre encore 5 verstes sur des rochers couverts de glace et de neige fondante pour arriver jusqu'au relais de Kobi. Les chevaux étaient harassés et nous, transis de froid. La tempête grondait de plus en plus fort. C'était bien celle qui rugit dans nos pays septentrionaux, mais ses lamentations étaient plus accentuées et plus tristes. « Te voilà proscrite, » pensais-je. « Tu pleures sans doute tes immenses et planes steppes, où tes froides ailes peuvent s'étendre à leur aise, tandis qu'ici, trop serré, tu étouffes comme un aigle prisonnier qui ronge en criant les barreaux de fer de sa cage.
« Voilà qui va mal !» dit le capitaine. « Regardez, autour de nous, on ne voit plus que l'obscurité et la neige. Songez donc, si nous allions tomber dans un précipice ou nous enfoncer dans un trou comme il est arrivé à Baïdar, nous n'en sortirions pas. Ah, je la connais, cette Asie. Quels habitants, quelles montagnes, quels torrents, c'est inhabitable !»
Nos postillons se mirent en criant à tirer, à frapper les chevaux.
Ceux-ci hennissaient, se campaient et ne voulaient pour rien au monde faire un pas, malgré l'invitation éloquente des coups de fouet.
« Votre seigneurie, » dit enfin l'un des postillons, « peut être certaine que nous ne pourrons arriver à Kobi maintenant. Mais voulez-vous tourner à gauche, tandis que c'est encore possible? Là-bas, au loin, sur le coteau, ne voyez-vous pas quelque chose de noir? C'est sûrement une cabane où les voyageurs s'arrêtent toujours un moment. Ces hommes disent qu'ils vous y conduiront, si vous voulez leur donner un pourboire, »
ajouta-t-il en montrant les circassiens.
« Je le sais, mon cher, je le sais, il n'est pas besoin que tu me le dises, » répondit le capitaine. « Je connais ces brutes-là. Ils sont heureux de me voir dans l'embarras pour me soutirer un pourboire. »
« Avouez que sans eux, nous aurions pu nous trouver bien en peine. »«
c'est bon, » marmotta-t-il entre ses dents. « J'en ai assez de ces gens-là. Ils cherchent toujours à tirer profit de nous, comme s'il était impossible de trouver le chemin sans eux. »
Nous tournâmes enfin à gauche et, après beaucoup de difficultés, nous pûmes atteindre un pauvre asile composé de deux cabanes bâties en pierre et en cailloux et entourées d'un mur semblable. Les maîtres, en haillons, descendirent et nous accueillirent cordialement. Je sus plus tard que le gouvernement les paie et les nourrit à la condition d'accueillir les voyageurs surpris par la tempête. « Tout va pour le mieux, » dis-je en m'asseyant près du feu. « Maintenant, vous me finirez l'histoire de Bella. Je suis certain que vous avez envie de me l'achever. »«
Mais pourquoi croyez-vous cela ?»
me répondit le capitaine en m'observant avec un regard fin. « Parce qu'il est dans l'ordre des choses de finir un portrait quand on l'a commencé. »«
Effectivement, vous avez deviné. »
« J'en suis très content. »«
Vous faites bien de vous réjouir, mais pour moi, c'est un pénible souvenir. »« Quelle charmante enfance était que cette Bella. »« Je l'accueillais comme si elle eût été ma fille, et elle m'aimait bien. »« Il faut vous dire que je n'ai plus de famille. »« Depuis 12 ans, je n'avais eu aucune nouvelle de mon père et de ma mère. » Et je n'avais point encore songé à prendre femme. Tel je suis, tel j'étais alors, et je fus content de trouver quelqu'un à gâter. Elle nous chantait souvent les airs de son pays et nous dansait divers pas. Mais comme elle dansait! J'ai vu les jeunes personnes du gouvernement, j'ai même été à Moscou, aux assemblées de la noblesse il y a cela 20 ans, mais où était Bella? Ce n'était plus ça. Grégoire l'apparaît comme une poupée, la rangeait, l'habillait avec soin, et elle devenait si jolie que c'était admirable. Le hâle de son visage et de ses mains s'était effacé, et les belles couleurs avaient reparu à ses joues. Puis, une fois dans cet état, resplendissante de gaieté et folle de joie, elle employait toute son espièglerie à me railler. Que Dieu le lui pardonne!
Mais qu'arriva-t-il quand vous lui apprîtes la mort de son père?
Nous la lui cachâmes longtemps, tant qu'elle ne fut pas faite à sa nouvelle situation. Et lorsque nous le lui dîmes, elle pleura 2 jours et puis l'oublia.